voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison radio, Kaizen donne la parole à ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Rencontre avec Patrick de Cochco, vice-président et coordinateur du réseau Semences Paysannes. D'abord chercheur en agronomie à l'INRA, puis au CIRAD, il rejoint la Commission européenne pour mettre en œuvre des programmes de développement ruraux. Engagé dans plusieurs procédures juridiques, puis responsable d'une expérimentation autour des parcelles de maïs OGM, il a pu constater dans les tribunaux et sur le terrain les limites des semences brevetées. Pratiquant la sélection de ses propres semences, il a rejoint le réseau de semences paysannes.
Suite à un travail, disons, de ces organisations fondatrices que sont la Fédération nationale agriculture biologique, la Confédération paysanne, le mouvement d'agriculture biodynamique et nature et progrès, à l'époque, ont vu arriver des réglementations très contraignantes sur les semences, et notamment pour les agriculteurs bio, l'obligation d'acheter des semences dites certifiées, c'est-à-dire, pour faire court, des semences industrielles qui sont sur les catalogues officiels, et donc qui allaient rayer de la carte toutes les semences qui étaient produites par les paysans eux-mêmes et multipliées, échangées par les paysans eux-mêmes. Donc ils ont fait un petit travail d'enquête en 2002 pour essayer de voir qui faisait encore ces semences et qui travaillait sur la semence dans les fermes. Et en 2003, ils ont réuni 350 personnes du côté de Toulouse, à Hausseville, pour ça a jeté en fait les bases du réseau. L'idée étant, comme son nom l'indique, de mettre en réseau tous les acteurs autour de la semence, avant tout pour partager les savoir-faire, parce que les savoir-faire sont pour certains disparus, partis, érodés, et pour échanger des semences également, et pour, communiquer et défendre les droits des paysans à ressemer leurs propres semences et à les sélectionner et les échanger.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la loi, dans les textes français? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on s'est intéressé à la semence, on a voulu la cataloguer, la mettre dans un catalogue officiel et interdire celle qui n'était pas inscrite dans ce catalogue?
Oui, ça c'est un peu une longue histoire. C'est l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture depuis de nombreuses années et qui a pris un tournant décisif carrément pendant la guerre de 39-45. Il y avait déjà eu un catalogue au départ, mais a priori, il s'agissait surtout de répertorier les semences par les semenciers déjà de l'époque, qui avaient déjà inventé un nouveau métier, le semencier, alors qu'avant, c'était les paysans qui faisaient les semences. Paysans, les jardiniers, hein, les cultivateurs, on pourrait dire. Et pendant la guerre, pour des raisons politiques, le gouvernement de Vichy a carrément imposé, créé une interprofession qui s'appelle le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel de la Semence, en 1941. Et à la suite de ça, en fait, les lois sont devenues de plus en plus restrictives avec l'obligation pour les paysans de racheter leurs semences chaque année et d'acheter des semences qui soient sur des catalogues officiels. Sachant que pour être inscrit sur ces catalogues officiels, il y a une série de critères qui sont des critères complètement contraires à la diversité. Donc on parle, par exemple, pour pouvoir vendre une semence, aujourd'hui c'est toujours le cas bien sûr, et c'est même pire aujourd'hui, pour inscrire une semence sur un catalogue et donc pouvoir la commercialiser, il faut que cette semence soit homogène et stable. C'est-à-dire que vous vendiez des clones. Donc c'était des semences qui soient toutes, quand vous semez, vous ayez exactement la même plante sur l'ensemble de votre champ et stable pour que l'année d'après, dans le temps, que ces semences soient les mêmes. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait nous. Les semences paysannes sont par nature hétérogènes. Et elles sont en fait, une des choses peut-être les plus importantes à comprendre pour voir, comprendre les raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble et qu'on travaille dans ce sens-là, c'est la différence entre ce qu'on appelle nous une population et un clone. Donc dans les clones, je mets tout ce qui s'appelle lignée pure, hybride, hybride F1, etc. Une population, c'est, comme son nom l'indique, un ensemble d'individus qui sont tous différents, mais dont on peut arriver à former des familles parce qu'ils ont des caractères proches. Alors vous avez par exemple, si je prends le blé que je connais bien puisque j'en cultive, le blé, vous avez le rouge de Bordeaux, c'est une population, vous avez le blanc de l'Aréole, hein, je prends des blés de la région, vous avez le blé du Lot, plus loin vous avez la pétanielle noire de Nice, vous avez le blé Lacaune, etc. Toutes ces populations qui portent souvent des noms géographiques sont des populations qui ont été sélectionnées par les paysans au cours des milliers d'années d'agriculture, sélectionner, adapter, alors échanger entre paysans et adapter localement et perpétuellement, voilà, rééchanger, circulant. Et donc on a à l'intérieur une grande diversité génétique à l'intérieur même de ce qu'on appelle une variété, d'une variété population et hétérogène par nature. Alors que ben, naturellement, quand l'industrie et le commerce sont mis sur les semences, l'idée étant de semer une semence sur l'ensemble du territoire, pour en vendre le plus largement possible, et pour pouvoir la reconnaître de la semence du concurrent, il faut que tous les individus de la semence soient les mêmes. Donc, pour ces raisons en fait qui sont purement commerciales de propriété sur les semences, on a imposé ces critères-là. Alors même que pour une agriculture vertueuse, il faut que la plante s'adapte à la terre pour qu'elle puisse vivre avec ce que la terre peut lui donner. Bon, bien sûr, il faut des terres vivantes, etc. Mais contrairement à une plante qui est toute la même, elle va forcément pas s'adapter partout. Et donc, il faut corriger l'environnement, d'où la nécessité de rajouter à manger des engrais. Et ensuite, quand vous avez la plante qui est exactement la même sur des grandes surfaces, vous avez des problèmes de maladies, vous avez des problèmes d'insectes, etc. Et donc, vous avez les solutions qui sont proposées par l'industrie, donc le kit chimique, pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, et j'en passe. Comme par hasard, ce sont les mêmes qui vendent les semences et qui vendent tous ces produits-là. Et c'est une appropriation déjà du travail des paysans pendant des milliers d'années qui s'est passé, puisque les semences qu'ils ont pris au départ pour faire leur propre sélection, elles étaient dans les champs des paysans. Ça, donc, on nous dit que c'est le patrimoine commun de l'humanité, donc ça appartient à tout le monde, donc ça appartient à l'industrie. Et derrière, ils ont développé tout un tas d'outils réglementaires. Ils ont commencé dans les années 60 avec ce qu'on appelle un certificat d'obtention végétale. Donc c'est un droit de propriété qui dure 20 ou 25 ans selon les espèces et qui, en fait, vous oblige à payer des royalties aux semenciers si vous réutilisez la semence, si vous réutilisez une partie de votre récolte l'année d'après pour en faire de la semence. Là, vous devez payer une taxe qui s'appelle la contribution volontaire obligatoire et qui va, rembourser, enfin, faire le retour sur investissement des industriels qui ont mis ces semences sur le marché. Aujourd'hui, il y a d'autres droits de propriété intellectuelle qui se sont développés. Aujourd'hui, ça fait déjà quand même pas mal de temps, mais c'est un peu plus sur le modèle américain. Il y a des brevets qui sont déposés. Et les brevets ne sont pas déposés sur la variété, mais ils sont déposés sur les caractères d'une variété. Par exemple, vous savez que telle tomate va vous donner tel goût, un goût plus acide, plus sucré, plus fruité, de framboise, peu importe. Eh bien, si vous arrivez à identifier la partie du génome qui est responsable de ce caractère, eh bien, vous pouvez déposer un brevet dessus, bien que ce soit pas du tout une invention. Et ce brevet vous donne aussi droit à des royalties. Et toutes les plantes, en fait, exprimant ce caractère, sont protégées par ce brevet. Le brevet, en fait, il y a une extension de la protection du brevet à toutes les plantes qui expriment ce caractère. Donc aujourd'hui, c'est pour nous, c'est ce qu'on appelle ça de la biopiraterie. Mais aujourd'hui, ça se développe de façon phénoménale. Bon, l'industrie pharmaceutique, ça fait longtemps qu'ils font ça. D'aller dans les pays d'Amérique du Sud, consulter les chamans pour avoir leur savoir et savoir que telle plante a tel effet. Et du coup, ils ont l'effet, ils cherchent après dans le génome, ils ont des outils aujourd'hui très performants pour identifier une partie du génome qui serait responsable de ce caractère-là. Ils posent un brevet et théoriquement, les gens qui les utilisaient traditionnellement se retrouvent à devoir payer des royalties.
Mais où est le bon sens là-dedans? Quelle est la logique? C'est une logique purement économique, en fait.
Ben, c'est la logique capitaliste. C'est le problème, c'est la propriété. C'est l'appropriation de choses qui sont du domaine du commun. au départ, l'alimentation, etc., c'est local, c'est par les communautés, entre elles, etc. Il y a une sorte de souveraineté. Et puis, au fur et à mesure, l'idée avec l'industrie, c'est que ça soit l'industrie qui produise l'alimentation pour l'ensemble du monde. Et donc, derrière, le pouvoir financier et du coup politique qu'ont ces groupes-là influe de façon prépondérante sur l'ensemble des réglementations, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales. Donc c'est cette logique-là. C'est pour ça que, quelque part, notre combat, il s'inscrit aussi dans un combat contre le capitalisme, et particulièrement le capitalisme appliqué au monde vivant. Les droits de propriété intellectuelle sur le vivant, c'est parfaitement inacceptable. C'est une bonne manière d'affamer le peuple.
On va redéfinir le mot semence.
Si on veut faire simple, on pourrait dire qu'une semence, c'est une graine. Hein, et l'arbre est dans la graine, hein, comme on le sait. Et donc, effectivement, c'est à la base de tout ce qu'on mange. C'est donc quelque chose qui est fondamental. Et donc, une graine, une semence, c'est quelque chose. C'est un organe. En fait, c'est un organisme vivant de reproduction de la plante que les plantes ont développé au fur et à mesure de leur adaptation sur le globe terrestre. Et pour se disséminer, se diffuser, elles ont différents modes de multiplication. Hein. Il y a des multiplications végétatives pour certaines plantes. La pomme de terre, par exemple, on repart souvent d'une autre pomme de terre ou des germes qui sont sur la pomme de terre. Mais il y a aussi énormément de plantes qui sont en reproduction sexuée, donc où il y a eu fécondation entre des parties mâles et des parties femelles et qui ont généré un embryon. Et cet embryon est dans la graine. Et quand on sème la graine, la graine donne la plante donne une plante qui est en général différente des parents, puisque justement il y a eu croisement entre deux plantes pour arriver à faire une nouvelle plante.
Patrick, vous disiez qu'aujourd'hui, les paysans ne peuvent plus reproduire leurs propres semences sous peine de devoir payer une pénalité.
Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, vous n'avez pas le droit de réutiliser des semences commerciales, industrielles, qui sont sur les catalogues. Si vous achetez une semence et que vous faites une récolte et que vous gardez une partie de la récolte pour la ressemer, pour certaines espèces, c'est interdit. Pour d'autres espèces, vous devez payer une taxe à celui qui est le propriétaire de la semence.
C'est contrôlé, ça ?
Oui, c'est contrôlé. Il y a diverses techniques de contrôle et qui étaient plus ou moins aléatoires avant, mais qui se précisent de plus en plus, puisque aujourd'hui, il y a des outils moléculaires qui permettent, ce qu'on appelle des marqueurs, qui permettent d'identifier dans vos champs si votre semence, elle vient de telle variété ou d'une autre variété. Donc, par contre, nos semences à nous sont libres de droit, les semences paysannes, et donc on a parfaitement le droit de les cultiver, de les reproduire. Par contre, on n'a pas le droit de les vendre.
Donc elles sont pas inscrites dans ce fameux catalogue officiel de semences ?
Non, elles sont pas inscrites. Pour déjà, la première raison, c'est qu'elles ne peuvent pas l'être, les critères ne correspondent pas.
Donc ça, c'était un moyen de contourner la loi en mettant en place un système d'échange et de bourses de graines. On ne les vend plus, donc ça, c'est légal. Mais c'est pour ça que ces bourses sont mises en place ?
Oui, notamment. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, du commun. Et le commun, c'est quelque chose qui s'organise à la fois en dehors du marché, mais aussi en dehors des institutions, qui sont aujourd'hui essentiellement à la solde du marché, pour déterminer toutes les règles du jeu, les lois, etc., les règlements, les directives. Voilà, donc nous, on a développé un petit peu un concept qu'on a appelé Maison des semences paysannes, sur un modèle d'ailleurs qui est utilisé depuis longtemps en Amérique latine, pour que la semence soit finalement le bien collectif du groupe, et que celui qui l'utilise va l'utiliser chez lui, en prendre une partie, et il va tout de suite rendre, à la récolte, il rendra ce qu'il a pris. Dans certains collectifs, ils ont des règles pour en rendre, par exemple, deux fois plus que ce qu'on a pris. Et puis, lui va pouvoir cultiver ensuite cette plante, etc. C'est une manière d'arriver à faciliter les échanges sans qu'on ait les contraintes réglementaires. Ceci dit, c'est toujours, c'est encore une fois, en dehors du marché.
Et comment se porte le réseau aujourd'hui, Semences Paysannes ? Est-ce que c'est exponentiel ? De plus en plus de gens sont dans cette démarche de reproduire eux-mêmes les semences pour développer ce catalogue illégal ou...
On essaye d'être aussi vigilant à la croissance, parce que je pense que dans beaucoup d'organisations... il y a un manque de vigilance sur la taille à garder pour que on ait des groupes à dimension humaine, qu'on puisse donc avoir des débats, des discussions, et que les décisions soient vraiment des décisions collectives et consensuelles au maximum. Et donc donc ça c'est un peu un préalable, mais on a quand même beaucoup grossi. Aujourd'hui le réseau comporte, enfin, est à 90 organisations membres. C'est un réseau d'organisations locales essentiellement. On a également des membres individuels qui des fois sont dans des métiers différents, par exemple des cuisiniers, mais donc on refuse pas du tout les additions individuelles, mais l'essentiel, de le cœur battant du réseau, c'est essentiellement les groupes locaux qui sont souvent plus sur certaines familles d'espèces. Des fois ça va être les céréales, des fois ça va être plus le maïs, le tournesol, des fois ça va être plus les potagères. On a des groupes qui travaillent également sur les fourragères, il y a un groupe qui réfléchit aussi sur les aspects vignes. Donc il y a, je dirais qu'il y a effectivement un intérêt qui est croissant au niveau des praticiens pour remettre cette diversité en jeu. Il y a aussi, j'allais dire ça presque malheureusement, un intérêt, peut-être que c'est le fruit de notre travail, où il y a une reconnaissance et un intérêt accru vis-à-vis des consommateurs sur les produits issus de semences paysannes. Et j'ai dit malheureusement parce que du coup ça attire souvent les acteurs qu'on souhaite pas forcément, qu'on n'imagine pas forcément être des acteurs de la défense de la biodiversité, comme par exemple la grande distribution, qui l'année dernière, il y a un groupe de la grande distribution qui a fait une espèce d'OPA sur le réseau, en voulant mettre en avant qu'eux, ils vendaient des semences interdites, et que voilà, en communiquant sur le fait qu'eux étaient militants en vendant des semences interdites, alors que les semences sont pas interdites, hein, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez les cultiver, vous pouvez vous pouvez les échanger dans certains cadres, et vous pouvez les en vendre le produit sans aucun problème. Mais ils sont venus en fait se verdir la façade en donnant quelques clopinettes aux producteurs, et avec simplement l'intention de capter une niche économique en création. Donc c'est pas facile dans le monde capitaliste d'aujourd'hui d'arriver à défendre quelque chose qui se situe un peu, comme je le disais, en dehors du marché et en dehors de la gestion publique. Mais il y a effectivement un intérêt, mais je pense qu'il a l'intérêt pour l'instant, il reste un petit peu au niveau du consommateur, il reste un petit peu une façade, et on aimerait bien que ça soit, enfin on travaille pour essayer de faire un changement de fond dans les consciences, pour que quand on mange quelque chose, on prenne conscience que derrière il y a une semence. Toujours une semence à la base, et que la semence conditionne le système agricole, qui va avoir sur le produit final un impact à la fois sur sa propre santé et à la fois sur la santé de la terre et sur l'environnement, sur l'ensemble du pays, quoi, du paysage.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Et toi, Patrick, quelle est ton histoire personnelle? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la semence et à rentrer dans Semences Paysannes et à en faire finalement un combat?
Bah, moi, j'ai eu un parcours un petit peu plus conventionnel au début quand j'ai commencé à travailler, et donc dans l'agronomie, je dirais, de manière générale, notamment une partie dans la recherche publique et dans les institutions, et notamment dans la Commission européenne. Et puis je me suis dit que la meilleure chose c'était de pratiquer, donc je me suis installé paysan il y a un peu plus de 20 ans maintenant, 95, et pour pratiquer une agriculture qui soit à la fois propre et non exportatrice, parce que les pays du Sud, ils souffrent surtout de nos surproductions subventionnées. C'est le constat que je faisais quand j'étais dans ces institutions. Et il se trouve que quand je me suis installé, j'ai immédiatement eu un problème avec un OGM qu'on a retrouvé dans mon soja bio, et qui m'a fait à la fois prendre conscience et puis à me dire qu'il fallait rejoindre un petit peu les groupes qui s'organisaient pour lutter contre l'arrivée massive de ces OGM. Donc voilà, c'est du coup l'alternative. C'est bien sûr essentiel de lutter contre ces OGM et contre ces plantes brevetées, manipulées, etc. Mais il faut aussi du coup travailler à une alternative, et les semences paysannes, c'est l'alternative, c'est la semence qui permet de se passer de ça, puisque on peut être autonome chez soi, et quand on s'organise ensemble, on arrive à faire le travail que pour l'instant qui a été complètement laissé de côté par à la fois les groupes semenciers, bien sûr, mais à la fois également par la recherche publique et l'agriculture bio et les semences paysannes. L'agriculture bio, c'est déjà le parent pauvre de la recherche publique, et les semences paysannes, j'en parle même pas, c'est un petit pourcentage de ce pourcentage. Donc voilà, l'idée, c'était de réunir un peu nos forces pour qu'on arrive à faire du travail, parce que les savoir-faire paysans sur la sélection, ben il y en a beaucoup qui sont partis avec les paysans qui ont arrêté. Et une semence, c'est pas seulement un paquet de gènes, c'est surtout même pas du tout un paquet de gènes, comme je disais tout à l'heure, c'est un organisme vivant, ça nécessite des savoir-faire, aussi bien pour la mise en culture, le suivi de la culture, les techniques de récolte, les techniques de séchage, de triage, de conservation. Et après ça, ça donne des produits qui sont différents de ce qu'on voit aujourd'hui. Quand vous voyez une tomate de variété ancienne et quand vous voyez une tomate hybride et fin, bon, il n'y a qu'une avec laquelle vous pouvez jouer à la pétanque et l'autre que vous pouvez manger. Et c'est donc on n'a pas le même goût, mais les conservations sont pas les mêmes, les techniques de cuisine, la préparation, la transformation pour arriver à faire différents produits sont pas les mêmes, et donc tout ça, ça nécessite beaucoup de travail, de savoir-faire, et on peut ne les retrouver qu'en étant ensemble, en cherchant dans les biblios, en allant voir les anciens quand il en reste, et puis en expérimentant ensemble.
Quand on parle d'hybride F1, on parle de quoi ? C'est quoi un hybride F1 ?
Alors, hybride F1, ça veut dire, c'est que ce qu'on sème, le F1, ça veut dire première génération. C'est-à-dire qu'on sème la première génération d'hybrides vendus par des semenciers. Alors, la technique de production des hybrides F1, c'était déjà une sorte de confiscation pour que le paysan ne soit pas capable, techniquement, de ressemer le produit de sa récolte. Donc, la technique pour obtenir des hybrides F1, c'est de repérer dans certaines plantes des parents potentiels.
La volonté première était donc de contraindre le paysan à devoir racheter des semences chez le même semencier.
Alors ça, je sais pas, puisque j'y étais pas, mais je sais pas si c'est la volonté première. C'est aussi l'observation d'un phénomène un petit peu particulier qui s'appelle l'effet d'hétérosis, qui fait que quand vous... pour des plantes qui se croisent naturellement, qui ont une fécondation croisée, c'est-à-dire que le pollen d'une plante va aller féconder l'ovule d'une autre plante, quand vous forcez les plantes à s'auto-féconder, donc le pollen va féconder sa propre plante, je prends l'exemple du maïs, hein, vous avez les fleurs mâles en haut, le pollen tombe sur la... et en général, 95% c'est de la fécondation croisée, mais il y en a une partie qui tombe sur la plante elle-même. Quand vous forcez ça et que toute l'auto-fécondation, c'est que de l'auto-fécondation, pour des plantes qui sont faites pour être en fécondation croisée, c'est pas naturel, elles finissent par dégénérer, et donc vous faites ça plusieurs années. Et quand vous avez obtenu les parents, donc après plusieurs années que vous aviez sélectionné au départ, vous faites de l'autofécondation sur le mâle et sur la femelle. Quand vous les croisez, eh ben, ils retrouvent un peu le brassage, le droit à la vie, et du coup, la première génération, la F1, elle est assez explosive. Elle donne, en général, des plantes qui sont du coup toutes les mêmes, puisque c'est exactement, on a les chromosomes du mâle et les chromosomes de la femelle qui sont dans toutes les plantes. Et vous avez un effet de vitalité qu'on a appelé aussi à une certaine époque la vigueur hybride, qui fait qu'on a des plantes qui sont plus productives, qui donnent plus de biomasse, etc. Mais quand vous avez plus d'un truc, vous avez moins d'autres choses. Donc souvent, il y a plus de quantité, mais moins de qualité. Et ensuite, quand vous avez toute la même plante sur le même endroit, ben elle n'est pas adaptée. Il faut corriger l'environnement avec tout le kit engrais et kit chimique. Donc par contre, la deuxième année, qu'on pourrait appeler la F2, quand on veut dire que vous avez récolté une partie de cette de votre récolte de maïs et que vous voulez ressemer le produit de la récolte pour l'année d'après, et ben vous vous retrouvez à retrouver par les lois de la génétique de Mendel, hein, qui date déjà d'un certain temps, et bien vous retrouvez grosso modo les trois quarts des parents dégénérés, c'est-à-dire des plantes rachitiques qui donnent pas de production. Donc techniquement, ça n'a strictement aucun intérêt de ressemer des graines issues d'une récolte d'hybride F1, parce que derrière, vous savez que techniquement, vous n'allez rien obtenir. Donc du coup, quand les paysans sont passés à ces hybrides parce qu'ils voyaient qu'ils étaient plus productifs, que quand ils mettaient des engrais, ça crachait. Bon, ils ont passé sur le fait qu'ils étaient obligés de mettre tout un tas de trucs qui empoisonnent la terre et les gens, et les sols et les eaux et tout ce qu'on veut. Et derrière, ils ont vite compris qu'ils pourraient pas ressemer, donc ils rachètent chaque année leurs semences. Donc ça crée un marché énorme, forcément.
Et aujourd'hui, quelle est la direction qu'on prend ?
Ça va vers le pire, puisqu'on est encore tous vers plus de propriété. Le brevet, c'est une appropriation totale. Bientôt, vous exprimez un gène particulier dans votre corps. Si on identifie que le gène donne tel caractère, vous serez vous-même porteur de gènes brevetés et potentiellement contributeur en payant des taxes. Donc, sincèrement, je vois pas d'amélioration au niveau politique global, au niveau économique. Quand on voit les fusions entre des géants comme Bayer et Monsanto, on est en droit de s'inquiéter, parce que si on regarde bien derrière comment ils se sont enrichis pour avoir ce pouvoir-là, à la base, c'est des marchands d'armes. Des marchands d'armes chimiques, Bayer, voilà, au passé plus que trouble pendant le nazisme, Monsanto, l'agent Orange, etc. Donc, pendant les guerres, ils se sont enrichis énormément en vendant des armes. Ça leur a donné un pouvoir énorme de contrôle du politique pour influer sur les règlements, avec le chantage classique, je retire mon usine, ça fait 300 salariés de moins, etc., etc. On connaît bien la musique. Donc, je vois pas d'évolution actuelle politique, disons intéressante. Il y a quand même quelques ébauches avec des gens qui se battent depuis longtemps là-dessus au niveau de traités internationaux. Par exemple, il y a un traité qui s'appelle le TIRPA, le traité international sur les ressources phytogénétiques appliquées à l'agriculture et à l'alimentation. Et dans ce traité, il reconnaît, qui a été signé par la France et par l'Union européenne, il reconnaît le droit des paysans à ressemer leurs semences, mais il n'est pas mis en pratique. Donc, ce sont des vœux pieux qui sont pas répercutés dans les textes en France. Au niveau citoyen aussi, de ce côté-là, il y a quand même une mobilisation, il y a une prise de conscience. On le sent bien dans les interpellations, on le sent bien dans le fait qu'il y a de plus en plus de paysans, de jardiniers qui veulent travailler avec ces semences-là. Et donc, il y a une prise de conscience, je pense aussi des mangeurs, dans le fait que on voit bien que l'état sanitaire des populations n'est pas terrible, entre tous les problèmes de santé, obésité, diabète, cancer, tout ce qu'on veut, qui sont beaucoup liés à ce qu'on mange, ce qu'on ingère. Donc, il y a aussi une prise de conscience de ce côté-là qui fait que des gens ont envie aussi de retrouver une alimentation saine. Maintenant, reste le problème d'une population qui s'urbanise de plus en plus, qui devient de plus en plus déconnectée de la terre, du monde vivant, et qui, pour certains gamins qui naissent aujourd'hui et qui sont dans les villes, ils savent pas comment, d'où vient l'œuf, comment ça vient dans leur assiette, d'où vient le maïs, la tomate, le concombre, etc. Il y a tout un tas de légumes qu'ils ont jamais vus, et donc ça c'est un petit peu, disons, le pendant. Il faut aussi que, moi je pense, en tout cas c'est une vision personnelle, qu'il faut que la société se désurbanise un peu plus et se ruralise un peu plus pour que on ait un équilibre, un nouvel équilibre à venir. Pour l'instant, la tendance n'a pas l'air d'aller trop dans ce sens-là, mais bon.
Est-ce que tu observes chez les jeunes générations un attrait plus important aujourd'hui vers les retours à la terre ?
Ah oui, alors ça oui. Il y a des choses qui ont changé par rapport à l'époque où moi j'ai fait par exemple une école d'agronomie. On ne parlait pas d'agriculture bio du tout, c'était carrément un gros mot. C'était vraiment complètement occulté, c'était le modèle industriel imposé dans lequel nous devions collaborer. Aujourd'hui, dans ces écoles-là où on distille encore beaucoup le message principal, il y a quand même un peu plus d'ouverture et il y a beaucoup de jeunes qui prennent conscience du problème, et on est fortement sollicité, nous, pour souvent les accueillir, faire leur proposer des stages, des formations, des stages de master, etc. Et il y a beaucoup de jeunes qui, même après leur formation bac plus 5, 6 ou 7, qui viennent s'investir dans les collectifs ou carrément s'installent ou cherchent à s'installer. Parce que ça, c'est un petit peu l'autre problème. Il se passe pas deux semaines sans qu'on reçoive des demandes de jeunes qui sont porteurs de projets, souvent collectifs, qui veulent s'installer pour pratiquer une agriculture propre, participer à un développement local, territorial, etc. Mais l'accès à la terre est devenu aussi très très compliqué, et donc il y a aussi des gens qui se battent là-dessus, hein, Terre de Liens par exemple, qui a aussi qui permet à certains de s'installer, mais ça reste que le il y a de la spéculation sur le prix de la terre de plus en plus forte, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour des jeunes de s'installer, et ce qui explique un peu le paysage agricole actuel où on a des exploitations qui grandissent de plus en plus, et je parle bien d'exploitation, et des petites fermes qui disparaissent tous les jours. Donc oui, c'est quand même dommage parce que on voit bien que les jeunes prennent conscience et peut-être plus vite que notre génération pour arriver à s'impliquer dans des collectifs et dans des fermes et dans des pratiques éthiques et saines. Mais ça reste un parcours du combattant pour arriver à déjà accéder et ensuite, quand il en a accédé, à vivre de son métier.
Dernière question, quelle est l'utopie que tu nourris, que tu aimerais pouvoir récolter, que tu aimerais pouvoir vivre dans un futur proche ?
L'utopie, ça serait justement une prise de conscience peut-être plus globale et plus partagée, afin de la nécessité de protéger nos communs. Et l'eau, par exemple, la terre, qui doivent sortir du cercle de la propriété privée pour arriver à être gérés par ses usagers de façon respectueuse des hommes et de la nature. Et voilà, on peut qu'espérer que la prise de conscience progresse.
Merci Patrick.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.